Famille, justice, enfance.
Bonjour, bonjour et bienvenue donc dans ce nouveau direct depuis les studios de RLP. Alors, ce soir, nous recevons le docteur Mila Aleshkovic-Bataille qui est en direct avec nous depuis Belgrade. Donc, elle est docteur en psychologie, en psychiatrie, en neurologie ainsi qu'en psychopathologie. Bon, on va faire vite. Mila, je peux vous appeler Mila ?
Oui, allez-y. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir Mila. Merci beaucoup d'être revenue avec nous. Alors, aidez-moi à cette présentation-là que j'ai fait un petit peu rapidement. Moi, je vous ai trouvé sur Internet via des podcasts que j'ai trouvé excellents sur la protection de l'enfance et sur le profil psychologique et psychiatrie des délinquants par rapport à l'enfance, des personnes dangereuses. Et je suis très heureux que vous soyez ce soir-là pour en parler avec nous.
Bonsoir encore une fois et merci de m'avoir invité. C'est juste pour préciser, moi, je suis surtout diplômée de la Sorbonne, mais je suis passée par Pennsylvania University et donc, j'ai enseigné en anglais, en espagnol aussi, en français. Et puis, mon domaine est assez vaste. Je suis ici tout à fait à votre disposition pour expliquer certains phénomènes dans notre science. Et puis, si vous voulez atterrir dans l'actualité, comme vous voulez, oui.
Vous êtes passé par le HESS.
Oui, voilà, c'est ça.
Vous avez même traduit des ouvrages de mathématiques. Vous avez fait un doctorat à la Sorbonne en 94 sur le concept de l'inconscient dans les psychologies modernes théories, dans la théorie des psychologies modernes, etc. etc.
Voilà.
Pour vous connaître un petit peu mieux depuis, est-ce que vous pratiquez, est-ce que vous consultez, qu'est-ce que vous faites depuis, qu'est-ce que vous faites dans votre métier de tous les jours ?
Alors, moi, déjà, j'enseigne toujours, maintenant dans plusieurs pays. Sachez, au départ, là, j'ai oublié de dire, je salue tout notre public, ceux qui nous écouteront. Sachez que je parle la langue qui n'est pas ma langue maternelle, donc si jamais il y a un problème, vous en conviendrez, vous allez me pardonner, mais j'espère que je pourrai expliquer les phénomènes assez difficiles d'ailleurs. Et donc, j'enseigne, j'ai pratiqué la psychothérapie, je suis passée par plusieurs écoles. Ça, on va l'expliquer par la suite. Et maintenant, en ce moment, si vous voulez bien, en ce moment, je suis en train d'écrire. Surtout, je suis entrée dans un petit moment de calme parce que j'ai commis un livre qui s'appelle La psychiatrie noire et j'essaie de développer ce sujet qui d'ailleurs n'était pas forcément le mien au départ parce que je m'occupais de la psychologie de l'art, de la psychothérapie, de la neurologie, psychiatrie anthropologique, développement de l'enfant. D'ailleurs, la cognition de l'enfant, mais je ne pouvais pas ne pas réagir quand j'ai vu toute cette ingénierie sociale, surtout dans la période là où le Covid, comme vous voulez. Et donc, parce qu'il y a des collègues qui sont tout à fait dans un abus de nos lois psychologiques et psychiatriques, psychopathologiques plutôt. Et là, je suis en train d'écrire là-dessus, j'ai fait ce livre et je développe le sujet encore plus sur l'ingénierie sociale. Les méthodes, pas les méthodes de l'ingénierie sociale, les méthodes simples, de la manipulation, parce que c'est un très ancien sujet, surtout des méthodes, des stratégies, des tactiques, langage militaire que vous connaissez peut-être. Comment ça se fait dans la psychiatrie noire? Quels sont les abus des lois de la psychologie, de la neurologie et, si vous voulez, tout ce qui est interdit par notre serment d'Hippocrate, Hippocratic Oath, et tout ce qui est interdit par la Charte des droits de l'homme, évidemment, et par le Code de Nuremberg. Malheureusement, il y a des collègues qui sont tout à fait dedans, qui servent au diable, on peut dire métaphoriquement, et qui sont surtout aujourd'hui dans cette hémorragie sociale lorsqu'on découvre les choses atroces, les files d'Epstein, etc. Et donc, là, j'écrivais sur ces pédopsychiatres qui servaient à la psychiatrie noire et à la manipulation des enfants. Voilà. Et donc, on peut aborder ce sujet, si vous voulez, concernant les dangers les plus graves pour nos enfants aujourd'hui. J'ai fait une petite classification. Le premier volet, c'est le système éducatif qui s'offre aux enfants et qui, à mon avis, très, très mauvais. Il s'agit de la banalisation des perversions et de la pathologie. Alors, c'est déjà le système éducatif qui n'est pas bon et qui a pour but de mettre dans la cervelle de nos enfants que tout est normal, que la pathologie n'existe pas. Donc ça, c'est un premier volet très dangereux, le système éducatif. Ensuite, on pourrait parler des causes de la pédophilie et de la pédocriminalité. Je fais bien la différence entre les deux phénomènes. C'est pas la même chose. Mais parler des causes, expliquer vraiment le phénomène, les causes, pas les raisons, les causes. Les causes et les raisons, c'est pas la même chose, logiquement parlant.
D'accord.
Le troisième volet, c'est un concept que je combats et qui est très à la mode aujourd'hui chez mes collègues, c'est le concept d'autisme de haut niveau. Je vais vous dire pourquoi. Je m'inscris en faux contre ce concept parce que je crois qu'il est très dangereux. Quatrième volet, ça pourrait être les nouvelles technologies susceptibles d'affecter le cerveau des enfants. Et ça, c'est aussi un grand danger. Et le dernier volet, enfin, il y en a beaucoup, mais pour ce soir, j'ai fait un petit choix dans ma classification. Le dernier, ça serait les centres sociaux et le nouveau système de foster care contre lequel je suis toujours aussi. C'est le système de Barnevernet qui a commencé bien comme la protection de l'enfant et qui a fini finalement, in fine, ils sont arrivés à être la même chose que Lebensborn nazi. Et bon, il s'agit donc d'enlèvement des enfants en famille et d'un trafic d'enfants qui est très, très grave, dangereux et qui se passe comme ça sous les radars. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Il y a ce concept, il y a la pédocriminalité, il y a le système Barnevernet.
Déjà, vous êtes intervenu sur la psychiatrie noire. Est-ce que vous pouvez expliquer de manière concise là ce que vous appelez la psychiatrie noire?
Bien sûr. Alors, la psychiatrie noire, ce sont les abus des lois psychologiques et neurologiques. Encore une fois, tout ce qui est interdit par notre serment d'Hippocrate, par la Charte des droits de l'homme et par le code de Nuremberg. Mmh. Malheureusement, c'est quelque chose qui est pratiqué par un certain nombre de collègues. Et donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait de tout temps, si vous voulez. Et moi, dans mon livre, j'ai essayé d'expliquer comment ça se passait. J'ai fait une petite introduction historique même, en commençant par Sun Tzu, par la manipulation de The Art of War. Bon, ça, c'est intéressant. C'était pas la psychiatrie noire, évidemment, mais il y avait déjà la manipulation, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ingénierie sociale, la simple manipulation socio-psychologique. Concernant la psychiatrie noire, ce sont des choses beaucoup plus précises concernant le neurologique et le psyché de l'humain. Alors là, ce sont les médecins, ce sont les psychiatres qui, ce n'est qu'eux qui peuvent expliquer de quoi il s'agit, de quoi s'agit-il, aux politiciens, malheureusement, qui après ils s'en servent, voilà. Mais sans psychiatrie noire, on n'aurait jamais su comment casser la personne de quelqu'un, la personne individuelle ou la personne collective. Ça pourrait être un peuple, un groupe ou tout ce que vous voulez. Et ce sont les méthodes que, en anglais, on dit ça parce que on parle d'un langage scientifique. C'est une expression qui est utilisée. Ce sont les personality breakdown techniques. Ce sont les techniques pour casser la personne, c'est-à-dire pour rendre les personnes, pour les traumatiser déjà, pour les rendre asservis par un traumatisme. Et le traumatisme sert toujours pour contrôler. Contrôler, faire tout ce que vous voulez, politiquement parlant, sociologiquement parlant, tout ce que vous voulez. Mais il s'agit toujours d'un traumatisme qui est dans le fondement de toute manipulation de la personnalité humaine. Alors, je pourrais vous dire exactement, énumérer en quoi, quelles sont les méthodes les plus utilisées, si vous voulez.
Non, mais c'est pour expliquer un petit peu aux gens. On sait depuis un certain temps qu'il y a ce qu'on appelle le marketing politique, c'est-à-dire la façon de présenter la politique. Et nous avons de plus en plus au niveau de nos politiciens ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire la façon de diriger les foules, les groupes, et parfois lorsqu'il y a des récalcitrants ou des individus en face de nous, la façon de les briser, de les faire changer, de les orienter. Il y a maintenant une utilisation par certains systèmes de ces concepts, en fait, qui sont basés au départ de la médecine, mais qui sont détournés de leur usage d'origine, en fait.
Absolument. Et vous savez, la manipulation socio-psychologique, elle existe partout. Dans toutes les publicités, vous avez ça, c'est un monde sans fin. Mais quand il s'agit de l'abus de la psychiatrie, c'est beaucoup plus grave. Et ça commence, c'est justement concernant les enfants, parce que ça commence souvent dans l'enfance des enfants, la manipulation, le traumatisme chez les jeunes enfants, c'est le plus grave, c'est vraiment une catastrophe. Alors, quelles sont les méthodes? Les méthodes, tout simplement, de cette psychiatrie noire, j'appelle ça comme ça, dark psychiatry. En France, ça n'existe pas. En fait, la France, c'est le pays de la psychiatrie. Au XVIIIe siècle, la psychiatrie démarre en France avec Esquirol et Pinel. On enseigne ça à tous nos étudiants. Évidemment que l'abus de la psychiatrie existe partout, mais la France n'a pas eu l'abus psychiatrique au niveau institutionnel, au niveau de l'État, comme ça arrivait par exemple dans la psychiatrie soviétique à l'époque, chez les psychiatres, il y avait des psychiatres, Luntz, Marozov, Snezhnevski, etc., qui traitaient tous les opposants politiques comme les cas schizophrènes.
C'est en train de venir chez nous, ça, Madame Bataille, parce que nous avons une psychiatrisation de la justice.
En ce moment, ça arrive.
C'est en train de venir chez nous, si vous voulez. Les psychiatres régulièrement utilisés par le système judiciaire. Oui. Et nous avons aussi régulièrement des échos de lithium, je crois, je ne sais plus quelle est cette molécule, ce métal là pour les dépressifs que l'on retrouve dans l'eau courante aussi, donc on peut s'interroger.
Bien sûr, c'est ça, oui. Oui, vous avez raison, mais moi je voulais dire que ce n'était pas institutionnalisé. D'accord. Avant, comme par exemple aux États-Unis, où vous avez eu vraiment un programme au niveau d'État, mind control, le contrôle du mental, c'était un programme de l'État qui était fait par souvent on pense que c'était ça a été fait par les charlatans. Non, c'était un programme très très scientifique fait par les grands psychiatres, les psychiatres très compétents.
Le MK Ultra, c'est ça. Le MK Ultra, tout ça là.
Voilà. Oui, voilà. Et ils étaient d'ailleurs, ils étaient dirigés par Intelligence Service. Donc c'était un programme au niveau d'État. En France, ça n'existait pas à ce moment-là, à ce niveau-là, pardon. Mais maintenant, c'est vrai, ça revient petit à petit, et c'est très triste. Parce que, en fait, tout ce qui se passe, voilà, mais je vais vous dire de quoi s'agit-il exactement. Il y a déjà, d'abord, la privation, voilà les méthodes. La privation sensorielle. Privation sensorielle, ça veut dire la privation physique et émotionnelle. Ça, c'est la privation sensorielle. Ensuite, méthode du choc. Incitation du sentiment schizophrène ou paranoïaque. Moi, j'ai dit à mes collègues, je ne m'occupe pas, pendant l'affaire Covid, là, je ne m'occupais pas de l'écosystème et de l'épidémiologie parce que ce n'est pas mon domaine. Mais le virus, le plus grave qui soit, c'est le virus de la paranoïa collective. Et ce virus existait. Et ça, c'était très grave ce qu'il faisait dans une fear campaign, comme on dit, dans une campagne de peur. Et c'était atroce ce qu'il faisait à ce moment-là, et ça continue aujourd'hui d'ailleurs. Alors, privation sensorielle, méthode du choc, incitation du sentiment paranoïaque, humiliation. Humiliation, c'est une méthode peut-être la plus grave qui soit, parce qu'elle casse vraiment le cognitif et l'émotionnel de la personne tout de suite. Agression, violence, relativisation. Incitation à toutes sortes de transgressions sexuelles et de toutes sortes de perversions. Donc c'est la relativisation qui est très à la mode maintenant. On va voir pourquoi c'est le problème très très grave. Relativisation de ce qui est la pédocriminalité justement. On en parlera peut-être plus tard si vous voulez bien. Contrôle, donc tout ça c'est le contrôle des individus par le traumatisme. Donc privation sensorielle c'était physique et émotionnelle. Vous vous souvenez à l'époque du Covid, on va pas parler de ça, mais vous vous souvenez de, on pouvait pas embrasser nos enfants.
Comme nous avons qu'une demi-heure et tout ça, effectivement, je vous entends. Là, ce dont je me rends compte, et ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que il y a un détournement aussi du système éducatif pour banaliser certaines choses, qui se base justement sur l'usage qui a été fait, le détournement de certains principes psychiatriques et psychologiques durant l'époque Covid. Et vous vouliez dénoncer aussi ce que le système éducatif occidental, me semble-t-il, est en train de faire à nos enfants, c'est ça ?
Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une tendance à banaliser tout ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle révolution sexuelle pour les enfants. Il n'y a rien de nouveau, la révolution sexuelle pour les enfants, c'est très ancien. Je n'étais jamais contre la révolution sexuelle. Mais la révolution sexuelle est une chose, la révolution sexuelle pour les enfants en est une autre. Ce qui est très dangereux, c'est cette tendance à effacer toutes les différences entre les comportements malades et les comportements sains. Et d'inciter les enfants de leur présenter un certain nombre de pathologies comme quelque chose de tout à fait normal, de blanchir. C'est de là que le problème de la pédophilie, enfin, pas de la pédophilie, mais de la pédocriminalité vient, parce qu'il ne faut pas confondre, ce n'est pas la même chose. La pédocriminalité, c'est vraiment quelque chose qui transcende, qui va vers le pénal. Pédophilie, non. C'est pour ça que je divisais ça en plusieurs catégories, je vais vous dire tout de suite. Mais donc, c'est une tendance à inciter les enfants à leur présenter toutes sortes de perversions, qui étaient d'ailleurs très bien décrites par la psychanalyse. Moi, je suis contre beaucoup de concepts psychanalytiques, mais la psychanalyse, quand même, la théorie psychanalytique décrivait très bien un certain nombre de perversions, comme par exemple la zoophilie, la nécrophilie, le sadomasochisme, la pédocriminalité, voilà. Bon, transgenre, bon, passons, c'est moins grave. Mais on a l'impression que ce qui s'offre comme système éducatif à nos enfants, c'est la relativisation de tout cela et l'effacement de toute différence entre les comportements malades et sains. Et ça commence déjà dans les crèches.
Alors, ce que vous voulez dire, par exemple, pour expliquer aux gens, c'est le syndrome de Benjamin qui touche un enfant sur 10 000 ou 100 000, enfin, qui est extrêmement minoritaire. Ça veut dire banaliser ce syndrome qui vraiment est quelque chose qui existe, mais qui statistiquement est extrêmement réduit, et de le traiter comme si c'était une normalité au reste du groupe, c'est ça ?
Voilà.
D'accord.
C'est ça. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et puis, ça pourrait être aussi beaucoup plus grave parce que on a, l'ancien programme pardonnez-moi, mais je ne peux dire que ça, c'était un pervers et un psychopathe. Je ne peux pas dire un médecin parce que c'est, enfin, il était médecin.
Kinsey.
Oui.
Voilà, c'est quand on commence comme ça, c'est Kinsey. Voilà, c'était
ok. Vous l'avez compris. Oui. Non, mais c'est quelqu'un qui, malheureusement, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'influence sur l'OMS à l'époque.
Oui, il a eu beaucoup d'influence et autres. C'est quelqu'un pour expliquer aux gens qui allait tripoter les enfants pour faire des expériences, pour voir si par hasard, quand on était nourrisson ou qu'on était gamin, on ne pouvait pas faire des orgasmes, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui a fait des expériences sur les enfants. Oui.
Au départ, c'était un zoologiste qui s'occupait des insectes. Donc, il n'avait aucune connaissance ni sur le développement de l'enfance, ni de la neurologie. Il ne connaissait pas que chaque enfant a une sexualité infantile. Sexualité infantile, c'est quelque chose qu'on connaît. C'était pas la peine de l'introduire de cette façon-là. Mais il y a des stades à passer. Il y a des étapes que l'enfant passe dans son enfance. Et là, nous avons, que vous aimez le langage de la psychanalyse ou pas, moi je suis passée par, je me revendique le droit et le confort, si vous voulez, d'être syncrétique, parce que je suis passée par la psychanalyse, mais aussi par le comportementalisme, la thérapie cognitiviste et tout ça. Donc j'essaie de synthétiser ce qui est bon, ce qui est mauvais dans tous ces courants, je n'appartiens pas à une chapelle. Donc la psychanalyse a bien décrit aussi le développement sexuel de l'enfant, la sexualité infantile qui existe. L'enfant passe par des stades. On a le stade oral qui est évidemment qui est lié à l'alimentation chez les nourrissons évidemment. Ensuite vous avez le stade anal. Ensuite on a un stade phallique. Bon, la période de la latence et ensuite seulement le stade génital. Et vous ne pouvez pas accélérer ça. Ce sont des étapes à franchir. Il y a un développement normal de la sexualité infantile qui existe à tous les coups. Mais dire que l'enfant doit être stimulé et qu'il devrait mené vers ce stade génital très tôt, c'est un non-sens. C'est un crime. Mais
Marie-Estelle Dupont disait ici, ainsi que d'autres, que confronter l'enfant trop tôt à une sexualisation pouvait l'endommager et n'était pas bénéfique pour lui.
Ben ça, c'est évident. Et vous savez, c'est rien. Encore une fois, c'est rien de nouveau.
Oui, mais on le fait. Je suis obligée de dire qu'on le fait.
On le fait, Mais on le faisait aussi. Vous savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec un très bon psychologue qui s'appelait Ignacy de Loyola. Ignacy de Loyola est un excellent psychologue qui faisait de bonnes choses pour les enfants, mais qui savait les manipuler aussi et qui avait un programme particulier pour les enfants. Y compris la manipulation. Il était très fort. Et donc, qu'est-ce qu'il pratiquait déjà à l'époque? Et pas que lui. C'est le viol rituel des enfants. Et pourquoi? Eh bien, parce que les enfants violés rituellement sont traumatisés dès le départ, affaiblis dès le départ. Les mécanismes de défense ont encore très bien décrits par notre science, c'est-à-dire le refoulement, la rationalisation, l'identification à l'agresseur, la négation, le splitting et tout ça, ça c'est très bien décrit. C'est vraiment, c'est même quelque chose qui est empiriquement vérifiable, parce que la psychanalyse n'est pas vérifiable empiriquement, c'est une théorie. Mais il y a des moments que vous pouvez vérifier empiriquement. Le complexe d'Oedipe, vous ne pouvez pas vérifier empiriquement, évidemment, et les fantasmes de l'enfant. Mais les mécanismes de défense, oui. Alors qu'est-ce que vous faites avec ce traumatisme très tôt, traumatisme dans cette enfance, avec un enfant qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous lui cassez tous les mécanismes de défense, vous l'affaiblissez, il y a une dissonance cognitive tout de suite, il y a le traumatisme, on ne l'oublie jamais, c'est la mémoire d'éléphant chez l'enfant qui a subi le traumatisme, c'est pour toujours. Et bien surtout, à l'âge où il peut rien comprendre. Et donc, pourquoi le viol rituel a été pratiqué? C'était, en plus, chez Loyola, c'était pas contre les enfants. C'était pour les enfants, pour qu'ils soient, comment dire, pour qu'ils soient bien, pour qu'ils se tiennent au carreau, pour que ce soit les enfants qui vont écouter, qui vont être disciplinés, qui vont être, bon, asservis, évidemment. Et c'était une méthode de les discipliner. Vous voyez, donc, c'est rien de nouveau. C'est rien de nouveau.
Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la façon dont l'éducation s'accapare l'éducation sexuelle à l'école, la façon de traumatiser en masse, hein, parfois parce qu'on voit dans la ZEU et autres, l'augmentation du nombre de traumatismes sur la petite enfance a pour but de les affaiblir et de les rendre plus disciplinables plus tard? Vous êtes en train de dire qu'en tout cas...
Absolument.
Oui, vous pensez ça, d'accord.
Absolument. C'est le contrôle.
D'accord.
Si vous commencez le contrôle à cet âge-là, vous aurez des... Bon, nous, on sait, ils vont développer les caractères masochistes, plus ou moins. Bon, ça, encore, c'est discutable, mais c'est un petit peu ça. Je parle en général. Et donc, c'est une population qui sera parfaitement contrôlée demain. Il n'y a aucun problème. C'est très simple.
Le fait d'avoir eu un traumatisme dans la petite enfance vous rend plus manipulable, c'est ça?
Absolument. Plus maniable. Plus on est petit, enfin, en subissant ce traumatisme, plus on devient frustré, maniable, faible. Après, maintenant, attendez, il y a quand même un phénomène qui est très important dans notre métier. Lorsque les enfants sont intelligents, là le facteur génétique est en jeu aussi également. Lorsque les enfants sont intelligents, créatifs, ça pourrait finir autrement. Il y aura une sublimation. Par exemple, mon collègue, comment il s'appelle, le neuropsychiatre là en France, qui parle tout le temps de des méthodes des enfants qui ont subi des traumatismes graves et c'est la théorie de la résilience. Ils sont devenus des écrivains intéressants, des artistes, même des scientifiques, etc. Oui, ça existe. Tous les enfants ne deviendront pas les cas pathologiques, loin de là. On peut sublimer, on peut faire, comment dire, la frustration de l'enfance, la tragédie de l'enfance, le malheur subi, ça pourrait être sublimé après dans une vie tout à fait saine, humaine, créative, etc. Mais un grand nombre d'enfants n'ont pas cette force. Et donc en général, ça deviendront des bons citoyens, voilà, pour une société totalitaire, pourquoi pas. Alors ils écouteront. Ce sont les masochistes. Quand vous voyez maintenant ce qui se passe dans les crèches où il y a des pervers qui viennent vers les enfants et
les bébés, on a des cas maintenant de violeurs de bébés.
Ah oui, mais ça, c'est Casey qui a introduit ça en disant, en parlant d'une sexualité. Oui, ben c'est ça. La pauvre Judith Riesman, la femme qui a combattu tout ça aux États-Unis, parce que c'est un fou qui vivait dans l'État de Indiana. Il était très protégé, il était très épaulé par les cercles du pouvoir, Casey. Et il avait heureusement que son programme n'est pas rentré dans le programme de l'OMS, mais c'est tout juste, hein, c'était presque... Bon, ils ont accepté la sexualisation des enfants à partir de 3 ans, 4 ans, parce que lui, il parlait, il disait que la stimulation sexuelle des enfants était nécessaire à partir de... Enfin, il parlait des nourrissons, déjà. Mais au plus tard, à l'âge de 3 ans, qu'est-ce que ça veut dire? Un enfant, ça veut dire blanchir les pédocriminels. Ceci implique cela, parce que...
Les gens sont incrédules, mais je vais confirmer. Il y a des directives de l'OMS, il y a des textes de l'OMS qui vraiment disent ce genre de choses. Et c'est pas de l'invention, ils ont réellement publié des directives, des conseils auprès des nations pour dire que, bah, ce que vous venez d'expliquer là sur nos enfants. Donc vraiment, il y a une interrogation par rapport à l'OMS. Comment se fait-il que maintenant plusieurs pays s'en sont retirés, mais voilà, il y a effectivement un courant de pensée qui veut s'occuper des choses très intimes de nos enfants de manière assez précise.
C'est
quand même.
Hein. Ouais. Oui, c'est pas seulement un courant de pensée, il y avait un jeu de pouvoir, parce que c'est comme avec Bill Gates aujourd'hui. Vous savez, ce sont des gens qui ont financé des programmes. Et donc, lui, il avait quand même la main mise sur beaucoup de choses, il contrôlait des choses. Casey aussi. Mais ça, c'est pas... dans le monde, chez nos collègues, médecins, psychiatres, etc., il y a toujours une population qui... des pervers, voilà, enfin, qui sont tentés par... Enfin, ils peuvent devenir des personnes les plus humaines qui soient, mais ils peuvent aussi être comme le pédopsychiatre connu qui vivait en Australie et qui servait à blanchir les pédocriminalités. C'était le père d'une certaine actrice qui s'appelait Nicole Kidman et qui jouait dans les films dans la jungle hollywoodienne. Mais son père, le docteur, enfin, pédopsychiatre, là, parce que Casey, c'était un zoologiste au départ, et celui-là est un pédopsychiatre qui, David Kidman, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Examine et expertise les enfants violés. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit l'expertise en disant que ces enfants avaient des confabulations, des imaginations, des mensonges pathologiques, etc. Parce que ça existe en enfance aussi. Il y a une période où l'enfant a des mensonges pathologiques et tout ça. Enfin, ce sont des périodes du développement, on passe par tout ça. Alors qu'est-ce qu'il faisait, lui ? Il expertisait, il disait que ces enfants confabulaient. Et les enfants violés, les enfants maltraités malheureusement par ce clan des pédocriminels qui existe. Voilà, aujourd'hui on le voit très bien que ça existe parce que on assiste à des chocs avec ces files et tout ça. Alors lui, il disait bon, c'était des enfants malades, des enfants qui fantasmaient, ça n'existait pas, etc. Seulement, on donnait à ces enfants les tests, on leur demandait de faire un dessin. Et quand un enfant faisait un dessin d'un organe qu'il a vu et qu'il a violé, eh bien, on peut parler de l'imagination de l'enfant de 4 ans ou de 5 ans, mais voilà. Bon, vous savez, donc ça existe. Il y a des pédopsychiatres qui, malheureusement, ont servi à cela. Donc, malheureusement, encore une fois, chez les collègues, les psychiatres, s'il n'y avait pas ces gens qui vont leur connaissance, bon, disons, des malfaiteurs, on n'aurait jamais su ces choses-là. Mais David Cameron et David Hebb, dans le Control, Mind Control, c'était les psychiatres assez compétents qui servaient à ça, qui expliquaient comment on peut torturer la personne, comment est-ce qu'on peut rendre un patient schizophrène, comment on utilise les électrochocs, comment on efface la mémoire dans l'hippocampe du cerveau, comment est-ce qu'on donne le LSD. À l'époque, il n'y avait pas des drogues d'aujourd'hui. Ce sont les psychiatres très, très compétents. Ce n'étaient pas des charlatans. D'ailleurs, quand on va dans l'histoire, les médecins comme Mengele n'était pas un médecin ordinaire, c'était un scientifique. Malheureusement, c'était quelqu'un qui avait des compétences scientifiques. Et ces psychiatres-là, qui ont été gardés jusqu'à nos jours, il y a toujours ce danger dans notre profession d'abord, et ensuite on blanchit les pervers qui malheureusement existent. Et moi, je les ai, si vous voulez bien, je ne sais pas, j'espère que ce n'est pas trop lourd, il faut endurer quand même cette explication parce que ce sont des sujets très graves. Moi, je les ai, comme vous le savez d'ailleurs, si vous avez entendu cette interview, moi, je les ai classifiés dans 3 catégories, les pédocriminels, enfin les pédophiles vers la pédocriminalité.
Nous allons faire une toute petite pause jingle. C'est le docteur Mila Aleshkovic-Bataille. La suite de l'interview sera disponible sur Internet et cette émission sera rediffusée mercredi.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, d'accord. Enfance.